Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 23 mars. Les Ukrainiens affluent en nombre dans le Rhône, mais la préfecture peine à faire face aux demandes de protection temporaire. Explication dans cette édition. Euronews, désormais interdite de diffusion en Russie. Le GAL, le groupe antifasciste Lyon, menacé de dissolution. La circulation du Covid-19 est de nouveau en augmentation dans l'Ain, la Loire et le Rhône. Quelques chiffres dans ce quart d'heure lyonnais. Les défenseurs de la cause animale s'en sont émus. 17 ragondins ont été abattus par des chasseurs équipés d'arcs et de flèches à l'initiative de la mairie de Lyon dans les bassins de confluence. Nous évoquerons également le Michelin. L'édition 2022 ne comporte que des pertes d'étoiles pour les restaurants lyonnais. Une belle histoire dans ce quart d'heure lyonnais, celle de Brandon, un jeune homme de 26 ans qui a connu la rue. Nous l'écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. Nous avons rencontré également Gilles Desrumeaux, le président de la Fondation Aralis, la structure qui a permis à Brandon de rebondir.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les Ukrainiens affluent en nombre dans le Rhône. Forum Réfugiés, chargé du dispositif de premier accueil, est d'ailleurs dépassé par les demandes de protection temporaire. Pour l'instant, seuls 30 dossiers par jour sont traités sur les centaines de personnes présentes. La préfecture a mis en place 4 guichets pour traiter exclusivement les dossiers de ressortissants ukrainiens. Les familles doivent préalablement obtenir un rendez-vous en passant par Forum Réfugiés. Un numéro spécial a été mis en place, le 06 12 42 66 50. Des centaines de personnes font la queue parfois toute la nuit, rue Garibaldi. Les familles d'accueil dénoncent le manque d'anticipation de la préfecture. Le statut de protection temporaire ouvre des droits à la santé, au logement et au marché du travail. Du côté de la préfecture, on évoque une montée en puissance du dispositif dans les prochains jours. Le 27 février, la présidente de la Commission européenne interdisait la diffusion des médias Russia Today et Sputnik. La réponse de la Russie ne s'est pas fait attendre. Euronews est ainsi désormais interdite de diffusion en Russie. La chaîne basée à Lyon va recourir à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Cet article garantit la liberté de la presse, d'opinion et d'expression. Euronews se réserve le droit d'envisager toutes les voies de recours et toutes les voies juridiques pour continuer à diffuser librement en Russie la vérité sur la guerre. La télévision publique russe détient 1,2% du capital d'Euronews, basé à Confluence. Le GAL, le groupe antifasciste Lyon et environ, menacé de dissolution. La procédure est en cours d'ailleurs. Des documents de déclenchement de la procédure de dissolution ont été notifiés à des individus considérés comme appartenant au groupe. Ce dernier a 10 jours pour répondre. Une procédure contradictoire. Le GAL dénonce un coup électoral pour attirer les électeurs de la droite. Une manifestation est d'ores et déjà annoncée samedi après-midi au Terreau.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Après 6 semaines consécutives de fortes baisses, la circulation du Covid-19 est de nouveau en augmentation dans l'Ain, la Loire et le Rhône. Un nouveau rebond épidémique poussé par un sous-variant d'Omicron, le BA2, désormais majoritaire dans les contaminations. Pour autant, le nombre de patients hospitalisés en soins conventionnels continue de refluer. Il y a 12% de patients en moins dans les hôpitaux du Rhône. Notre département sort même du top 10 des départements comptant le plus de malades Covid+ en hospitalisation conventionnelle. Une baisse qui est de 10% dans la Loire et de 7% dans le département de l'Ain. La population des ragondins a considérablement diminué ces derniers jours dans les bassins de confluence et pour cause. 17 rongeurs ont été abattus par des chasseurs équipés d'arcs et de flèches à l'initiative de la mairie et sur préconisation de la préfecture. Une opération d'éradication menée régulièrement depuis de longues années. Les ragondins, contrairement aux castors, sont considérés comme nuisibles. Ils se reproduisent, creusent des galeries, détruisent l'écosystème et peuvent être porteurs de la leptospirose. Une maladie grave pour les humains et pour les autres animaux, notamment les chiens qui parfois divaguent dans les bassins. Pour la mairie écologiste, il n'y avait pas d'autre solution pour éviter la prolifération. Les ragondins abattus vont faire l'objet d'analyses pour savoir s'ils sont réellement porteurs de maladies. Précision, l'euthanasie des pigeons n'est désormais plus pratiquée entre Rhône et Saône.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
À présent, cette belle histoire qui mérite bien un coup de projecteur.
Vu que j'ai connu la rue, c'était compliqué de pouvoir avoir un piano et pouvoir jouer, sachant qu'un synthétiseur, c'est électrique et qu'on n'a pas de toit, on ne peut pas jouer à ça. Puis même, c'est le stress de la rue, le froid, le où on va dormir, c'est pas possible.
L'histoire de Brandon, ce jeune homme de 26 ans, a connu l'incertitude pendant 3 ans. Il s'est retrouvé tout juste majeur, sans abri, avec toutes les déconvenues inhérentes à cette précarité.
Déjà, on n'a pas d'adresse fixe et on est obligé d'aller voir le CCAS, la ville de Lyon, pour se faire domicilier là-bas. Et en fait, ils disent, l'employeur, quand il te dit « t'habites où ?», tu dis « bah écoutez, je suis domicilié au CCAS. » En fait, tout de suite, ça lui dit « ah, bah lui, il est en galère ». Et du coup, bah, ça freine l'employeur. Il dit « ouais, ça se trouve, il va me planter, il va partir, ou il peut lui arriver n'importe quoi ». C'est un peu une fierté. Quand j'ai eu l'appartement, j'ai ma copine, elle était hyper contente. J'étais de partout et nulle part en même temps. Et en fait, quand elle a su que j'avais eu l'appartement, elle était ultra contente. Elle est même venue le soir même pour voir à quoi l'appartement ressemblait.
Brandon a intégré une résidence sociale à Ralis. Après 3 ans de suivi social et d'accompagnement, Brandon a pu trouver un logement dans le circuit traditionnel. Mission donc remplie pour Ralis, une fondation qui propose un logement transitoire pour répondre à diverses situations. Une structure fondée il y a 70 ans, la Maison du Travailleur Nord-Africain, disait à l'époque, car il s'agissait de loger une population émigrée venue en France pour travailler. Nous avons rencontré Gilles Desrumeaux, l'actuel président d'Aralis.
Les foyers ont vu le jour dans les années, on va dire, 50. Hein. La fondation est née en 51. Alors, à ce moment-là, on ne s'appelait pas Fondation Aralis. Hein. Ça, c'est dans les années 70. Ça a été d'abord la Maison du Travailleur Nord-Africain et ensuite la Maison du Travailleur Étranger. C'était loger des travailleurs dans une perspective, en plus, de logement à moindre coût. C'est-à-dire que l'idée, c'était que c'était une population qui allait repartir. Donc, on faisait de l'habitat transitoire, des foyers, avec un statut, d'ailleurs, hôtelier et sur un mode, on va dire, paternaliste au mieux, militaire au pire, de gestion de ces populations dont on se méfie un peu dans un contexte de guerre coloniale.
En 2022, quelles sont les missions aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, les missions, elles se sont transformées complètement, hein, puisque nos missions, c'est à la fois d'accueillir des personnes en grande difficulté d'accès au logement, de les loger, et puis de les accompagner. Donc, ça nécessite que, par exemple, tout ce parc qui a été construit au fil des années, eh bien, aujourd'hui, il est obsolète, d'une part, parce qu'il a vieilli, et d'autre part, parce qu'il est plus adapté aux nouveaux besoins. On était dans des chambres, ce qu'on appelle en unité de vie, c'est-à-dire des chambres avec des grands couloirs et au bout des espaces sanitaires, avec des cuisines collectives. Aujourd'hui, le logement qu'on propose, c'est du logement autonome où les personnes, elles sont chez elles, avec un droit à y rester, avec une kitchenette, avec des sanitaires. Voilà, donc c'est vraiment du logement et du logement semi-collectif avec des unités de taille différente. Ça peut être autour de son logement, pour des résidences sociales, avec des espaces communs, ou ça peut être des unités plus petites pour les pensions de famille qui logent des personnes en grande difficulté sociale, avec des unités de 20 logements et un soutien renforcé, professionnel auprès de ces personnes.
La configuration a changé parce que le public a changé. Aujourd'hui, quel est votre public ?
Alors le public, il est très divers. Le public, il va depuis ces anciens travailleurs migrants que nous accueillons aujourd'hui dans des habitats regroupés, qui permet de compenser la perte d'autonomie de ces travailleurs migrants qui aujourd'hui sont à l'âge de la retraite. Ça peut être des jeunes en transition qui ont besoin de se loger rapidement parce qu'ils viennent de décrocher un stage sur Lyon. Ça peut être des personnes qui sont en rupture de couple, de travail, qui traversent des difficultés financières importantes et qui ont besoin transitoirement de loger le temps qu'ils rebondissent, qu'ils posent leurs valises et qui puissent aller ailleurs. Ça peut être aussi des personnes en grande situation d'exclusion, personnes en souffrance psychique, des gens qui ont connu la rue pendant plusieurs années, et on ne loge pas ces personnes de la même manière, parce que les besoins sont différents. Donc il faut que le logement il soit adapté, et les services et le soutien qu'on apporte modulés selon les besoins des personnes.
Votre devise, c'est en quelque sorte aujourd'hui le logement accompagné, ça veut dire quoi ?
Alors c'est justement du logement, d'abord autonome, où les gens ils sont chez eux, mais avec des soutiens à la vie quotidienne qui leur permettent d'avoir toujours quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui détecte les difficultés qu'ils rencontrent, qui soit capable de les orienter vers les bonnes personnes qui vont soit poser un diagnostic lorsqu'il va y avoir des questions de santé, soit qui va pouvoir leur aider, les aider à accéder à un logement, à un emploi, à leurs droits administratifs quand ils sont en difficulté de ce côté-là. Voilà. Donc on est vraiment dans un travail de, voyez, d'écoute et de soutien des capacités des personnes pour les aider à recouvrer l'ensemble de leurs droits.
Dans résidence sociale, il y a des pensions de famille. Ça, c'est une formule que vous développez aujourd'hui. Pour quelle raison ?
Alors, moi, j'y suis très attaché depuis 1997, l'année où ça a été lancé par Xavier Emmanuelli. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec Xavier Emmanuelli pendant des années. Donc, c'est vrai que les pensions de famille, c'est vraiment, moi, je trouve, une structure remarquable. Et la politique publique, on compte peu au niveau global. Donc, il faut le noter. C'est des petites structures de 20 logements autour d'un espace commun qui sont des cuisines, des séjours et sur lesquels les personnes peuvent être chez soi mais pas tout seul. C'est un peu moi la devise que je donne aux pensions de famille. Être chez soi mais pas tout seul, ça veut dire que je suis vraiment chez moi. Je peux, lorsque j'ai connu la rue, me regarder dans une glace. Je peux m'entendre avec d'autres. Je peux envisager l'avenir. Voilà, donc c'est vraiment être chez soi mais pas tout seul. Ça veut dire que autour de moi, les autres qui sont un peu les mêmes que moi, et ben voilà, je peux aussi avec eux reconnaître les mêmes que moi, me faire des amitiés, et avec aussi des salariés, des professionnels qui sont là pour m'aider dans la vie quotidienne, faire que les choses se passent bien entre les personnes, faire qu'il y ait un peu de vie, d'âme dans ces pensions de famille, et puis que les personnes, elles puissent aussi en sortir, c'est-à-dire retrouver une vie sociale, aller au cinéma, faire du jardin, trouver des occupations, parce que souvent ce sont des personnes abîmées par la vie, qui ont connu des accidents de la vie très importants. C'est souvent des personnes qu'on va pas retrouver dans un travail banalisé, mais par contre qui ont besoin que leur capacité soit reconnue par l'ensemble de leur environnement.
En gros, c'est détecteur de difficultés et détecteur de capacités ensuite ?
On peut pas travailler que sur les difficultés, parce que sinon c'est d'une certaine manière déprimer les personnes, les renvoyer uniquement à leurs difficultés, alors qu'une personne c'est aussi des capacités. Mais des capacités éteintes, des capacités pas mobilisées. Donc notre job, c'est de faire qu'en proposant la clé d'un logement, on ouvre aussi une clé en eux qui va remobiliser leurs capacités, qui va faire qu'elles vont s'en sortir et en sortir dans les deux sens du terme, s'en sortir personnellement et en sortir peut-être, parce que même en pensant à une famille, on voit qu'il y a des gens qui en sortent pour retrouver un logement, voire quelquefois une vie de famille. L'idée, c'est dire que c'est jamais fini, c'est jamais clos. Les personnes, elles peuvent vivre dans de l'ouvert, et l'ouvert, c'est l'ouvert de la pension de famille et l'ouverture de la pension de famille à son environnement social.
On a commencé en parlant des 70 ans. Comment vous voyez, peut-être pas les 70 ans qui viennent, mais en tout cas l'évolution de votre métier ?
Je dirais que, pour reprendre la phrase de quelqu'un, il faut avoir le pessimisme de l'intelligence. Le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Alors, le pessimisme de l'intelligence, c'est dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la grande précarité sociale dans notre société fait que de plus en plus de personnes sont en la rue ou sont en difficulté d'accéder à un logement, parce que le logement, c'est très cher, et que malheureusement, on est amené à se développer. Je dis bien malheureusement, parce que c'est pas sain sur l'état d'une société. Donc, pessimiste de l'intelligence, mais en même temps, optimiste de la volonté, parce que je suis persuadé que, justement, si on est hospitalier vis-à-vis de tout le monde, les gens qui arrivent ici parce qu'ils connaissent l'exil d'un pays étranger, hospitalier parce que, ces personnes dont personne ne voulait loger, on les loge et on les accompagne, une société, elle peut être vraiment humaine, humaniste, c'est-à-dire retrouver des valeurs concrètes qui permettent à des personnes de trouver un lieu soufflé ou être soutenues et révéler leurs capacités et d'être reconnues pour des personnes chacune uniques.
Gilles Desrumaux, l'actuel président de la Fondation Aralis, si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Brandon, rendez-vous sur notre site internet liondemain.fr. Deux restaurants rétrogradés et aucune nouvelle étoile. C'est le maigre palmarès de Lyon au Guide Michelin 2022. Même le restaurant de Paul Bocuse reste à 2 étoiles après avoir perdu la 3e l'an dernier. 2 tables lyonnaises perdent même 1 étoile. L'auberge de l'île Barbe, qui n'a pas rouvert depuis le confinement. Et les Trois Dômes, le restaurant du Sofitel, dirigé par Christian Lerme. Seule petite consolation, la jeune équipe du Bergamote et son chef Maxime Pujol au 123 rue de Gerland, qui soit décerné un bib gourmand. Un restaurant qui met en avant une démarche responsable biologique et locavore. Les différents indicateurs de résultats des lycées pour 2021, publiés par le ministère de l'Éducation nationale, le lycée Rabelais à Dardilly, spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, l'alimentation et la restauration, est en tête de ce palmarès, que ce soit en voie technologique ou professionnelle. Rabelais affiche les meilleurs taux de réussite au bac du département, du côté des lycées publics. Le CFA va devenir d'ailleurs à la prochaine rentrée Greta CFA Achera, hôtellerie, restauration, alimentation. Il s'ouvrira donc à la formation continue. Les lycées publics Rosa Park à Neuville et Germaine Tillon à Saint-Bel affichent aussi un taux de réussite au bac de 100%. Les sports, en football féminin, les Lyonnaises retrouvent la Ligue des Champions ce soir face à la Juventus dans l'antre de l'Allianz Stadium. Les filles de l'Olympique Lyonnais tenteront de prendre l'avantage dès le match aller face au coriace adversaire italien. En tennis, Caroline Garcia abandonne à Miami. Blessée, la Lyonnaise a été contrainte à l'abandon au premier tour du Master 1000. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.